Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Et oui, la dernière demi-heure des drôles de dames sur RMC. D'ailleurs, important, précision importante, hein, avec Fred, Polo, Julien et Johan, la semaine prochaine, ce sera le mardi soir à 20h et pas le lundi soir à 20h, car il y aura un match de l'équipe de France. Et comme il est absolument hors de question de trapper un épisode des drôles de dames, nous serons bien là le mardi soir à 20h en Génération After avec les quatre personnes ici présentes. Ça vous va, mardi? T'as noté, Polo? Tu seras bien là?
Oui, oui.
Polo, je te trouve très en forme. Je sais pas si c'est l'été, mais très enthousiaste.
J'avais cette analyse, en effet. Je commence bien la saison. Je sais pas comment je vais la finir, mais vous prendrez le relais. Hein, c'est comme la Vuelta.
Il y a l'Allemagne et l'Angleterre qui jouent. Et les Pays-Bas. Il y a un Pays-Bas-Allemagne.
N'oublie pas que les points qui sont pris ne sont plus à prendre.
Ah non, c'est exactement. Pas comme ça que ça marche ici. Là.
Ah ouais, mais
tu gères bien ton effort et t'es bon du début à la fin.
Ouais.
Mais c'est vrai que
j'ai remarqué la saison dernière, certains d'entre vous ont eu des périodes de creux comme ça.
C'est tout à fait exact. Il y a des moments où je suis pas content du niveau de l'émission, pour des raisons personnelles. Mais je pense que depuis le début de la saison, c'est bien parti, donc ça va. Il faut continuer comme ça.
Si on ouvre sur Adenheim, un lundi sur quatre, ça va fonctionner.
Déjà, ça te remet un peu de
très bien. Mais moi, ça me va. Attends donc que la Ligue des Champions reprenne, on sera obligé de parler du Bayern, mon cher Polo aussi.
Oui.
Possible.
Mais très bien, il y a plein de choses à dire sur le Bayern.
Polo, tu m'isoles ça aussi.
Il faut laisser quelques matchs aussi pour comprendre.
Très bien, ok.
De compagnie et tout ça, il y a plein de choses.
Très bien, magnifique.
Et comme Hürtzeller aussi en première ligue, c'est génial.
Oui. Bon, Polo, ne fait pas trop non plus en forme, mais calme-toi quand même. Garde-en un peu sous la semaine.
C'est toujours le maillot rouge.
Et Johan l'AC Milan en difficulté. C'est confirmé. Nul à la Lazio. Deux partout. Deux points en trois journées. Le Milan a déjà épuisé ses tifosi.
C'est assez étrange parce que en l'espace de trois journées de championnat, on a l'impression que les tifosi ont vécu une année quasiment de une saison complète parce qu'il s'est passé trop de choses en trois matchs. Je les ai notés, mais je vais même pas toutes les énumérer parce que ça aurait pas trop de sens. Mais il y a eu donc trois matchs entre le Torino, Parme et la Lazio, mais entre le premier match où il y a la compo un peu folklorique, où il y a beaucoup de stars qui sont sur le banc, mais c'est pour mettre des joueurs en forme, qu'on fait plus d'entraînement, où ça se passe pas bien, t'es mené 2-0, tu remontes à 2-2, le stade explose, Morata un peu en sauveur, mais Morata qui se blesse aussi en même temps dans les arrêts de jeu, et Morata qui à la fin du premier match vient de dire faut qu'on change de mentalité, alors que le mec ça fait 15 jours qu'il est là, mais il a tout compris. Le deuxième match à Parme catastrophique, où Théo il est à haut, notamment les attitudes sont vraiment pas bonnes, sont pointées du doigt par les supporters, il y a les premières polémiques, puis Fonseca décide que pour le troisième match, le match successif contre la Lazio ce week-end, comme Théo et Léo ont pas été bons à Parme, et ben ils sont sur le banc. Ils prennent la décision en début de semaine. Il leur explique qu'ils vont pas jouer contre la Lazio. Donc ils commencent comme ça. Ils mènent 1-0 sur un coup de pied arrêté. Ils gèrent plutôt bien la première mi-temps contre la Lazio. C'est plutôt bien géré. La Lazio avait commencé très fort, mais le but les a éteints tout de suite. Ils avaient mis beaucoup d'agressivité, mais ça les a éteints. Par contre, la deuxième mi-temps, elle est catastrophique. Et quand Milan est mené 2-1, bah, il fait rentrer Théo, Léo, Abraham, Moussa, des joueurs de poids. Théo et Léo tout de suite en ordre de marche, ils sont sur le but de l'égalisation, mais derrière il y a le cooling break, bah on connaît
la pause fraîcheur.
La pause fraîcheur, tout le monde va vers l'entraîneur écouter un peu les consignes, ou en tout cas prendre une bouteille d'eau, ou peu importe. Bah eux ils restent à 50 mètres de là, de l'autre côté ils y vont pas. Il y a Abraham en plus qui leur dit bah venez.
Ça boude.
Alors Milan explique que non, qu'il y a pas de problème avec l'entraîneur, et je peux le croire, hein, qu'il y ait pas de drama avec Fonseca, il y a pas de problème. Mais en tout cas leur action à Théo et Léo lors de ce cooling break, lors de cette pause fraîcheur, laisse la porte ouverte à toutes les interprétations au niveau médiatique, à tous les commentaires possibles, et au moins ils ont été, je vais dire que si en tout cas ils n'ont pas eu la volonté délibérée de s'afficher comme ça pour montrer qu'entre eux et l'entraîneur il y avait déjà une distance, ils ont été imprudents en tout cas. Au moindre ils ont été imprudents, parce que ils savent très bien qu'en Italie ça va très vite, et qu'ils ont commencé sur le banc, et qu'en agissant de telle sorte, ça allait forcément déclencher une espèce de vague médiatique qui s'est ajouté à tout ce que j'ai expliqué depuis le début de la saison, et qui fait que les supporters, il y en a qui en ont déjà marre du début de saison. Il y en a, ils se disent, mais attends, on est au bout de trois journées et on est fatigué. On est déjà fatigué de notre club, parce que au-delà même des résultats et des prestations qui sont pas géniales, mais ça, tu peux t'y attendre. Il y a beaucoup de changements. Fonseca essaie d'amener des changements et pour l'instant il y réussit pas trop parce que tout ce qu'il veut mettre en place notamment son ballon, le pressing, il explique sans arrêt que il faut chercher à récupérer le ballon le plus rapidement possible, donc une sorte de contre-pressing très agressif, on le voit jamais. Donc est-ce que c'est que les joueurs veulent pas le faire, est-ce que c'est que ça va prendre plus de temps, est-ce que c'est, on sait pas, mais il y a beaucoup trop de choses. En plus hier on apprend tout de suite après le match que Zlatan, normalement qui est censé être un peu la figure médiatique du club, ben il est déjà en vacances. Et donc pour gérer l'affaire Théo Léao, ben il serait servi que Zlatan vienne devant les caméras et dise oh, ben en fait il y a rien du tout, arrêtez de nous chercher. Donc c'est Fonseca qui a eu ce rôle-là.
Attends, c'est-à-dire, j'ai pas suivi, il commence ses vacances ?
Ouais, il a pris les vacances après le dernier jour du mercato.
D'accord, bon, il a beaucoup bossé après.
Non mais ça OK, mais tu peux attendre au moins le dimanche. Qui est le match qui soit passé et que après d'autres vont prendre des vacances, Fourlani, Moncada, ils vont prendre des vacances, il y a pas de problème, ils ont le droit d'en prendre. Mais attends au moins le match du samedi qui était très important quand même, où tu sais en plus que bah Théo et Léao vont commencer sur le banc parce que Fonseca l'a prévenu, Ibra, et il a prévenu tout le monde qu'il allait les mettre sur le banc. Donc tu sais que ça peut être chaud. Tu sais qu'il va falloir être derrière ton entraîneur si ça se passe pas bien. Donc c'est là où il a vraiment pas bien joué parce que Zlatan, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'il est encore pas dans la peau d'un dirigeant. Qu'il a la stature médiatique du mec qui pèse, évidemment.
Plus simple.
Mais qu'il aime bien aussi, quand même, les privilèges de l'ancien grand joueur qu'il était.
C'est intéressant, ça peut être limite.
Et je trouve que ça colle pas encore. Alors, attention, c'est un début, c'est peut-être normal aussi.
On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre.
Non, mais faut qu'il apprivoise aussi ce poste de dirigeant. Être dirigeant à Milan, attention, hein, c'est pas simple. Il y a tout de suite des comparaisons qui sont faites avec Paolo Maldini, qui a été là pendant plusieurs saisons, avant de partir, en fin de saison, non pas dernière, mais la saison d'avant.
Ouais.
Mais en tout cas, il y a une espèce de, ouais, d'ambiance pas géniale à Milan, et notamment, oui, ce sentiment que, émotionnellement, c'est très instable. Et quand tu enclenches un nouveau projet où il y a déjà beaucoup de changements, où tu as besoin de sérénité et de travailler en sérénité, c'est un peu délicat.
La trêve internationale arrive, elle peut faire du bien. Je rappelle qu'après la trêve, justement, c'est contre l'Inter, hein, que le Milan
reprend. C'est pas tout de suite après l'Inter, mais la journée d'après.
La journée d'après.
C'est l'Inter. Et attention, Milan reste sur 6 défaites consécutives contre l'Inter. Une victoire sur les 9 derniers derbys.
Il a été giflé aussi récemment.
Autant vous dire que si ça se passe pas bien non plus là avec le derby, la pression va encore augmenter pour Milan.
Je rebondis sur un truc et je voudrais poser question à mes trois potes. Tu parlais des postes fraîcheurs. Est-ce que chez vous c'est sponsorisé ?
Ah, non.
Bah non,
on Ligue 1 non plus. Pas à ma connaissance.
Il n'y a pas, il fait pas assez chaud en Angleterre, c'est normal.
Ouais. En Allemagne non plus.
Non.
En Italie, ce que j'ai découvert cette saison, en Liga, c'est une marque d'eau qui sponsorise à la télé la pause fraîche.
C'est-à-dire que t'as un bandeau avec marqué Cooling
Break. Bah en fait, t'as une sorte de. T'as une sorte
ils ont collé une marque d'eau à cet instant-là.
Voilà. Donc, en fait, c'est une incrustation avec une sorte
mais
de.
Mais là, c'est quoi
et moi, je vous dis. Bien sûr.
C'est que ça devient pervers parce que parfois tu dois forcer des post fraîcheurs pour placer le sponsor.
Mais bien Dieu, entendu, mais bien entendu. Parce que franchement,
des Américains, des Espagnols.
Et donc le côté, il y a une espèce de d'incrustation. On voit l'eau qui coule. C'est Cholan de Cabras qui est une eau très connue. Ah ouais, non, mais c'est un truc qui se voit beaucoup au moment de la post fraîcheur. Donc je me suis fait la réflexion ce week-end et je me disais, à un moment, je pense que bientôt on aura naturellement des pauses. Pour mettre de la pub. Alors, et pour pas qu'il y ait que de la pub à la mi-temps.
Alors attention, nous en Italie, on n'a pas ça. Par contre, on a la VAR qui est un sponsor.
Qui était, c'est magnifique.
Qui était crypto.com pendant deux saisons.
Ouais, non,
et qui aujourd'hui est Iliad. Donc free, quoi, en quelque sorte. Donc c'est un petit bandeau VAR en cours avec le logo du sponsor. Et nous, lors des changements, des remplacements, depuis deux ou trois saisons en Italie, l'écran se sépare en deux. Et donc, vous avez d'un côté le changement, de l'autre côté la pub. Et vous n'avez plus le son du changement.
Bon, on est pas
vous avez
France,
le son de la pub, ce qui fait que parfois,
nous
vous avez les standing ovations. Après un super performance,
Ouais, mais
ils ne les entendent même plus.
Sur le VAR, ça pose un vrai problème. Ça,
Vas-y, Polo.
C'est pas sur Sky qu'on fait ça, non? Beaucoup, non?
Ah, bah, Sky, nous, hein. Tout le monde le fait. Sky et DAZN le font en Italie.
Parce que le VAR, parce que la boîte qui paye la pub de VAR, s'il n'y a pas de VAR, elle n'apparaît pas. Donc finalement, ça a poussé les arbitres par moment.
Ah, ça, là, peut-être que là, tu vas dans le complot.
Non, pas le complot. Mais enfin, s'il n'y a pas de VAR.
Non, mais un jour, on va sponsoriser les cartons rouges. Le carton rouge est offert par Opel.
Mais moi, je suis persuadé. Moi, ce que je suis persuadé que les postes fraîcheurs, qu'il y aura bientôt une pause obligatoire au milieu de la première période. Au truc comme ça. Mais bien sûr,
on aura. Les Américains, ça fait 40 ans qu'ils font.
De 40 ans, des pauses
de la pub. Des temps morts de 4 minutes au basket en NBA pour replacer un maximum de pubs.
Donc moi, je
fais des matchs de 3 heures.
C'est post-pressure. En plus, il faut quand même reconnaître
on y va, les
que l'incrustation était plutôt
bien. Je n'aime pas du tout ce discours de gauchiste que vous avez, les gars, les amis.
Tu dépasses sur ça.
Oh là là.
Allez, la minute.
On dirait des anticapitalistes.
Polo, tu vas écouter sagement la dernière minute de la soirée. Elle est espagnole. Alors, a priori, on va partir sur quoi? Du flamenco? Sur une bonne variété espagnole? On va écouter ça. On y va. Ah ben magnifique.
C'est tango.
J'aurais pu dire tango.
Libertango.
Tu n'as jamais passé celle-là? C'est non. Une des plus connues histoires.
Non, bah non, justement. D'accord. Libertango. Création du plus grand, l'un des plus grands de l'histoire du tango, le grand rénovateur du tango moderne, Astor Piazzolla. Et c'est une chanson, c'est une musique qu'on connaissait beaucoup en France, parce qu'elle s'était chantée par Thierry Marchand. Par qui est un copain, Thierry Marchand. Par Guy Marchand. Moi, je suis tango. J'ai cette musique dans la peau. Donc voilà. Pourquoi du tango? Parce que je vais vous parler de deux Argentins, du papa et du fiston. Alors, moi, de ce que j'aime dans le foot, voilà, j'aime bien les familles, j'aime bien l'histoire de famille, j'aime bien tout ça. Et j'ai ressenti quand même une certaine émotion en voyant papa Diego Simeone faire débuter le fiston Giuliano Simeone, 21 ans, lors d'un match important, puisque c'est le match de deux clubs cousins, l'Athletic Club de Bilbao qui recevait l'Atlético qui a gagné 1-0 en toute fin de rencontre dans le temps additionnel, un véritable hold-up comme on dit. Alors il avait déjà débuté Giuliano il y a 3 ans, mais il faisait pas encore partie de l'équipe première, donc là après il a été prêté, etc. Là ça y est, il est joueur de plein droit de l'équipe première, avec une licence d'équipe première, ce qu'on appelle le dorsal de l'équipe première de l'Atlético. Et ça a été l'occasion pour le club et pour dans les médias et sur les réseaux sociaux de ressortir beaucoup de photos, notamment une photo d'il y a 20 ans exactement, où on voit Simeone qui reçoit un hommage à l'Atlético il y a 20 ans, avec dans ses bras un gamin d'un an, dans ses bras au Calderón. Et 20 ans plus tard, ben ce joueur, il est là, incroyable. Il porte le maillot de l'Atlético, et en plus il a une attitude très très Atlético. Ce qu'on a souligné de lui, il est attaquant, souligné de lui, c'est la ferveur et la puissance qu'il met sur le terrain. Ça rajoute quoi, je termine là-dessus, ça rajoute un peu plus de lien qu'il y a entre Simeone et la dynastie Simeone et ce club. C'est une nouvelle page entre un Simeone et l'Atlético qui est en train de s'ouvrir.
Bon, il a même un troisième fils qui joue à un niveau différent. Je crois que c'est l'aîné qui a 27 ans.
Alors, il joue
ans,
au Rayo Majada Honda.
Voilà, c'est ça.
En quatrième division.
Ouais, c'est ça.
Et d'ailleurs, il y a un joueur à l'époque où le Rayo Majada Honda est en deuxième division, Enzo Zidane avait fait une saison là-bas.
C'est pour ça que je connaissais ce nom.
Voilà, exactement. Majada Honda, c'est une petite ville dans la banlieue de Madrid. Voilà. Alors, et puis l'autre, Johan, il joue en Italie.
Giovanni.
Simeone. Installé déjà en Serie A.
Napoli.
Voilà pour les minutes de la soirée, on s'est régalé.
Polanski a dû utiliser cette musique sur.
Mais je sais pas, moi. T'es sûr? Moi, je crois que c'est dans l'Armée des Douze Singes. Également, avec Brad Pitt. Peu importe.
Ouais,
bref.
Alors, Astor Piazzolla, c'est une musique absolument extraordinaire.
Merci à Valentin sur le chat qui nous dit l'after, seul truc qui puisse faire aimer le lundi soir.
Oh, c'est beau ça.
Oui.
Attends, et ça pourrait.
Ouais, mais cette musique, pas forcément, bon sang, Polo.
Les gars, c'est sur un tango, culturel, mais les gars.
Nouveau de la saucisse et de la bière là maintenant. Allez, on revient dans un instant
c'est
pour les.
Extraordinaire.
Car les deux éditeurs, à tout de suite.